Le bar de Kino. L'homme s'asseyait toujours à la même place, sur le tabouret situé tout au bout du comptoir, quand il n'était pas occupé, bien entendu. Mais en général, personne n'était assis là. Le bar était rarement bondé, et ce siège était le plus discret et le moins confortable. Un escalier à l'arrière faisait que le plafond était très bas, en pente. On risquait toujours de se cogner la tête en se levant si l'on ne faisait pas attention. L'homme était grand, et pourtant il semblait étrangement préférer cet endroit exigu. Kino se rappelait la première fois que l'homme était entré dans son bar. Son apparence l'avait aussitôt frappé. D'abord parce qu'il avait le crâne complètement rasé, comme s'il venait d'être tondu, ce qui lui donnait des reflets bleuâtres, mais également parce que malgré sa maigreur, il était carré d'épaules et que dans ses yeux brillait une lueur singulière. Il avait aussi les pommettes saillantes et un large front, sans doute la petite trentaine. Il portait un long imperméable gris, alors qu'il ne pleuvait pas et qu'il n'y avait aucun nuage menaçant. C'est pourquoi, au premier abord, Kino se demanda s'il n'appartenait pas au milieu des Yakuza. Il se sentit un peu tendu en sa présence et se tint sur ses gardes. C'était le début de soirée d'une mi-avril assez froide. Il était 19h30. Il n'y avait pas d'autres clients. L'homme choisit cette place, à l'extrémité du comptoir, et enleva son imperméable, le suspendit à un crochet au mur, et d'une voix calme commanda une bière. Puis, sans un mot de plus, il se plongea dans un gros livre. Il semblait totalement absorbé dans sa lecture. Environ une demi-heure plus tard, ayant terminé sa bière, il leva très légèrement la main pour attirer l'attention de Kino, commanda un whisky. De quelle marque voulut savoir Kino, mais l'homme lui répondit qu'il n'avait aucune préférence. Juste un scotch ordinaire, un double, avec le même volume d'eau et un peu de glace, je vous prie. Un scotch ordinaire. Kino versa du White Label dans un verre, ajouta le même volume d'eau et deux petits glaçons qui avaient une jolie forme. L'homme avala une gorgée, parut procéder à un examen minutieux et tressit les yeux. « Parfait, dit-il. » Il continua à lire pendant une demi-heure, puis il se leva et régla ses consommations. Il laissa sur le comptoir le montant exact, comme s'il voulait se débarrasser de sa petite monnaie. Quand l'homme eut disparu, Kino se sentit soulagé. Pourtant, même après son départ, sa présence continua à flotter quelque temps dans le bar. Alors que Kino se tenait derrière le comptoir, occupé à préparer des plats, il lançait des regards de temps à autre vers la place qu'avait occupée l'homme peu auparavant, comme s'il était encore là, comme s'il allait lever la main pour commander quelque chose. L'homme se mit à fréquenter le bar régulièrement. Une fois par semaine, ou le plus souvent deux. Il buvait d'abord une bière avant de commander un whisky, White Label, avec le même volume d'eau, quelques glaçons. De temps en temps, il prenait un second whisky, mais en général, il s'en tenait à un seul. Il lui arrivait parfois d'étudier le menu du jour écrit au tableau noir et de commander un repas léger. C'était un homme taciturne. Il était pourtant devenu un habitué, mais la plupart du temps, en dehors de sa commande, il ne disait pas un mot. Si son regard croisait celui de Kino, il avait un petit hochement de tête, rien de plus, comme pour dire « Oui, on se connaît ». Il arrivait toujours dans le bar assez tôt, un livre sous le bras, allait s'asseoir au comptoir et se mettait à lire. Invariablement de gros ouvrages reliés, jamais des livres de poche. Quand il était fatigué de lire, à ce que supposait Kino, il relevait la tête et examinait la série d'alcool alignée sur une étagère, en face de lui, comme s'il observait d'étonnants animaux empaillés, venus de contrées lointaines. Une fois que Kino se fut habitué à sa présence, il ne ressentit plus aucune crainte à se retrouver seul avec lui. Lui-même ne parlait pas beaucoup et ne trouvait pas pénible de garder le silence alors que d'autres personnes se tenaient dans le même lieu. Quand l'homme était occupé à lire, Kino vaquait à ses tâches habituelles. Il lavait la vaisselle, préparait des sauces, choisissait des disques ou encore s'asseyait sur une chaise et épluchait soigneusement les journaux, les éditions du matin et du soir, comme s'il avait été seul. Kino ne savait pas comment s'appelait l'homme, alors que l'inverse n'était pas vrai. En effet, Kino avait donné son nom à son bar. L'homme ne s'était pas présenté et Kino n'avait pas osé le lui demander. Après tout, il n'était qu'un habitué qui buvait bière et whisky, lisait ses livres en silence, payait ses consommations avec de la monnaie. Il ne dérangeait personne. Pourquoi Kino aurait-il eu besoin d'en savoir davantage? Kino avait travaillé durant 17 ans dans une société d'articles de sport. Quand il était étudiant, il avait été un excellent coureur de demi-fond, mais en troisième année, une blessure au tendon d'Achille lui avait fait abandonner tout espoir d'intégrer une équipe professionnelle. Après son diplôme, grâce à la recommandation de son coach, il était entré dans cette société qui vendait principalement des chaussures de course. Son travail consistait à placer le maximum de produits dans les magasins de sport de tout le pays et à inciter des athlètes de premier plan à porter les chaussures de sa société. Bien entendu, cette entreprise de taille moyenne, dont le siège se situait à Okayama, ne pouvait rivaliser avec des marques renommées, comme Mizuno ou Asics. Elle ne possédait pas non plus la puissance financière de Nike ou d'Adidas, qui lui aurait permis de signer des contrats exclusifs avec les meilleurs coureurs de la planète. Kino ne disposait même pas des fonds nécessaires pour inviter et recevoir correctement des sportifs célèbres. S'il désirait leur offrir un repas, il devait restreindre ses frais au minimum ou régler la note avec ses propres deniers. Mais c'est avec beaucoup de minutie, et sans en tirer de bénéfices, que sa société fabriquait des chaussures faites main, destinées aux athlètes de haut niveau. Pas mal de sportifs, d'ailleurs, appréciaient la qualité de ses produits. Un travail consciencieux porte toujours ses fruits. Telle était la devise du fondateur de la société. Une pensée humble, quelque peu anachronique, qui convenait bien à la personnalité de Kino. Lui, qui était un homme plutôt taciturne et peu sociable, s'était pourtant révélé être un excellent vendeur. C'est en raison justement de son caractère intègre que les coachs avaient confiance en lui et que quelques athlètes, pas très nombreux certes, le tenaient en grande estime. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention les besoins spécifiques de chaque coureur, il les transmettait scrupuleusement aux responsables de la fabrication. Ils jugeaient son travail intéressant et en étaient satisfaits. Évidemment, il n'était pas très bien payé, mais c'était un métier qui lui convenait. S'il ne pouvait plus courir lui-même, il éprouvait toujours du bonheur à voir de jeunes sportifs encore en devenir s'élancer magnifiquement sur les pistes. Lorsque Kino démissionna, ce ne fut donc pas parce qu'il était mécontent de son travail, mais parce qu'il se trouva soudain confronté à un problème conjugal. Il découvrit que sa femme avait une liaison avec son meilleur ami au sein de l'entreprise. Kino passait plus de temps en voyage d'affaires qu'à Tokyo. Chargé d'un grand sac plein de modèles de chaussures, il faisait le tour de toutes les enseignes de sport du Japon, allant jusqu'à rendre visite à des universités régionales et à des sociétés qui sponsorisaient des sportifs. C'est durant ces tournées que sa femme et son collègue se retrouvaient. Kino n'avait rien vu venir. Il pensait que tout allait bien avec sa femme, et rien de ce qu'elle disait ou faisait ne lui avait apparu suspect. S'il n'était pas rentré de voyage par hasard un jour plus tôt que prévu, peut-être n'aurait-il jamais soupçonné ce qui se passait. À son retour, il retourna directement chez lui, à Kasai, pour tomber sur sa femme et son mari, nus, dans son lit. Dans sa propre chambre à coucher, dans le lit où il dormait toujours avec sa femme, il les découvrit tous les deux, dans une situation dépourvue de toute ambiguïté. Au moment où il ouvrit la porte de la chambre, il vit sa femme, à califourchon sur l'homme, ses jolis seins se balançant en rythme. Il avait alors 39 ans, sa femme 35. Il n'avait pas d'enfant. Kino baissa la tête, referma la porte et quitta la maison avec, sur l'épaule, son sac plein d'affaires sales d'une semaine. Il ne revint plus jamais. Le lendemain, il démissionnait. Kino avait une tante célibataire, la sœur aînée de sa mère, une femme très séduisante. Cette tante avait toujours eu beaucoup d'affection pour lui depuis qu'il était enfant. Elle avait longtemps eu une relation avec un homme plus âgé, qui, en témoignage de son amour, lui avait fait cadeau d'une petite maison située à Aoyama. C'était le genre de choses qui arrivaient dans le bon vieux temps. Elle habitait au premier étage et tenait un salon de thé au rez-de-chaussée. À l'avant, il y avait un joli petit jardin, dans lequel un magnifique saule pleureur laissait retomber ses branches chargées d'un feuillage opulent. La maison se trouvait tout au bout d'une ruelle, à l'arrière du musée Nezu, un lieu où les passants étaient rares. Mais sa tante possédait un étrange pouvoir d'attraction et son salon de thé était florissant. Quand elle eut dépassé les 60 ans, pourtant, sa hanche commença à la faire souffrir. Il lui fut de plus en plus difficile de s'occuper de son salon de thé seul. Aussi décida-t-elle de s'installer à Izukogen, dans une résidence qui possédait ses propres termes. Un centre de rééducation se trouvait également sur place. « Que dirais-tu de reprendre un jour mon commerce ?» avait-elle demandé à Kino. C'était environ 3 mois avant qu'il ne découvre les infidélités de sa femme. Il lui était très reconnaissant, avait-il répondu, mais pour le moment, il était content de sa situation. Après avoir démissionné, il téléphona à sa tante et lui demanda si son salon de thé était vendu. L'affaire avait été confiée à une agence immobilière, lui répondit-elle, mais il n'y avait eu aucune offre sérieuse. Kino lui demanda alors si elle accepterait qu'il transforme le local pour en faire un bar et qu'il la rembourse sous forme de mensualité. « Et ton travail ?»« J'ai démissionné. »« Ta femme ne sera pas opposée à ce projet ?»« Nous divorçons. » Kino lui demanda pas d'explications supplémentaires. Sa tante ne l'interrogea pas davantage. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Puis la tante proposa un certain montant de mensualité, bien plus bas que Kino ne l'aurait imaginé. Il lui dit alors qu'il pensait pouvoir s'en acquitter. « Je devrais recevoir des indemnités de départ, donc ne t'inquiète pas pour l'argent, » expliqua-t-il. « Je ne me fais aucun souci, » répondit-elle pour couper court. Kino et sa tante n'avaient jamais eu de longues conversations ensemble, sa mère ne voyant pas leur affection d'un très bon œil. Mais depuis toujours, ils se comprenaient très bien. Elle savait parfaitement que Kino n'était pas homme à trahir une promesse. Kino consacra la moitié de ses économies aux travaux nécessaires pour transformer le local en bar, utilisant autant qu'il le pouvait des matériaux simples. Une planche longue et épaisse fit l'affaire pour le comptoir, et les sièges furent renouvelés. Il posa du papier peint en couleur apaisante et modifia l'éclairage de façon que l'espace devienne propice à la dégustation d'alcool. Il récupéra chez lui sa modeste collection de disques et l'installa sur une étagère. Il possédait également une chaîne stéréo décente, une platine Torrens, un ampli Luxman, 2 petits haut-parleurs JBL à 2 voix. Il s'était offert cet ensemble quand il était encore célibataire, un achat plutôt déraisonnable à l'époque. Il avait toujours aimé écouter des disques de vieux jazz. C'était pour ainsi dire son seul hobby, que personne de son entourage ne partageait. Enfin, il avait appris à préparer la plupart des cocktails quand il était étudiant, et travaillait dans un bar à Rapongi pour gagner un peu d'argent. Il appela son bar Kino. Aucun autre nom ne lui parut convenir. La première semaine, il n'y eut pas un seul client. Mais il ne fut pas surpris, et cela ne l'inquiéta pas outre mesure. D'ailleurs, il n'avait prévenu aucune de ses connaissances, fait aucune publicité, ni accroché le moindre panneau racoleur à l'extérieur. Il avait simplement ouvert un bar tout au bout d'une ruelle, et attendait tranquillement qu'un client curieux le découvre et entre. Il lui restait encore un peu de ses indemnités de départ, sa femme ne lui avait pas réclamé de pension alimentaire. Comme elle vivait désormais chez son ancien collègue, elle n'avait plus besoin de leur domicile à Kasai. Aussi avait-il décidé de le vendre et de se partager la somme restante, après déduction du reliquat du crédit. Kino vivait au premier étage de la maison, au-dessus du bar. Il pensait ainsi être tranquille durant un certain temps. Dans son bar désert, Kino prenait plaisir à écouter autant de musique qu'il le désirait, à lire aussi longtemps qu'il le voulait. Comme un sol desséché pour qui la pluie est la bienvenue, il se laissait pénétrer par la solitude, le silence, l'isolement. Il écoutait souvent des disques d'Art Tatum, dont les pièces pour piano solo convenaient parfaitement à son état d'esprit. Il ne ressentait curieusement ni colère ni haine à l'égard de sa femme et du collègue avec qui il l'avait trompé. Au début, naturellement, le choc avait été rude et, durant un certain temps, il avait été comme sonné. Puis, peu à peu, il s'était résigné. Après tout, il devait faire avec. Au fond, il le reconnaissait, sa vie était un échec. Elle était complètement improductive. N'ayant jamais réussi à rendre quelqu'un heureux, comment pouvait-il espérer l'être lui-même? Il ne savait d'ailleurs pas très bien ce que le mot « bonheur » signifiait. De même, il ne percevait pas clairement ce qu'étaient des émotions comme la souffrance, la colère, la déception ou la résignation. La seule chose qu'il pouvait réussir à se construire était un lieu auquel il serait fermement amarré, où son cœur, sans profondeur et sans poids désormais, ne serait pas constamment ballotté. Ce petit bar, Kino, au fond d'une ruelle, devint ce port d'attache. Et par conséquent, devint un espace dans lequel d'autres hommes se sentirent étrangement à l'aise.